Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Louis Bardinet. Troisième volet de notre série consacrée aux campagnes électorales, mode d'emploi, après avoir parlé du bilan de Narendra Modi en Inde, de la sélection de candidats du côté du Sénégal ou de la RDC, place à la question du financement des campagnes. Financer son parti, la bataille des oligarques, direction l'Ukraine.
Personne ne peut imaginer, même dans nos pires cauchemars, que l'Union européenne fermerait son marché aux produits ukrainiens. En 2024, nous soumettrons notre candidature pour rejoindre l'Union européenne. Et je n'ai pas de doute que nous pourrons commencer à mettre en œuvre un plan pour intégrer l'OTAN.
Faire de l'Ukraine un grand pays, c'est mon objectif. Et pour l'atteindre, je ne reculerai pas. Et je sais que vous ne reculerez pas non plus. C'est pourquoi je me présente à la présidentielle.
La corruption est partout. Et le cynisme aussi. Nous voulons vraiment la transparence.
Il y a bientôt 10 ans, nous avons eu la révolution orange. Mais pourtant, ce sont les mêmes qui ont le pouvoir aujourd'hui.
Dans moins de 2 mois, le 31 mars, les Ukrainiens seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. C'est le second scrutin qui se déroule en Ukraine depuis la révolution dite de Maïdan de février 2014, un mouvement de protestation contre les orientations pro-russes du président de l'époque, Viktor Yanukovych, qui s'était soldé par sa destitution et par un conflit armé toujours en cours avec Moscou dans les régions séparatistes de l'est du pays. En lice, notamment pour ce scrutin, Petro Poroshenko, qu'on vient d'entendre, l'actuel président du pays, et Yulia Tymoshenko, qu'on vient d'entendre également. Ancienne première ministre. Deux dignes représentants de l'oligarchie ukrainienne, le premier ayant fait fortune dans la confiserie, d'où son surnom de roi du chocolat, et la seconde dans le gaz. Alors faut-il y voir le signe que l'Ukraine est encore loin d'être parvenue à dissocier sphère des affaires et sphère de la politique. C'est pourtant la promesse portée par la révolution orange de 2004 et puis celle du mouvement Maïdan de 2014, révolution auxquelles ont d'ailleurs participé, et c'est là la complexité de la chose, les principaux candidats. À l'approche de ces nouvelles élections, mais également des législatives prévues en octobre, où en est le projet d'un meilleur encadrement de l'influence des oligarques sur la politique? Comme toujours, ne risquent-ils pas de peser de tout leur poids pour favoriser les candidats qui défendront ensuite leurs intérêts? Quel encadrement, quel contrôle du financement des partis par les puissances économiques et financières du pays? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin en plateau. D'abord, Yulia Shukan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes une spécialiste de l'Ukraine, maîtresse de conférences en études slaves à l'Université Paris-Nanterre et puis chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. Bienvenue à vos côtés, Vyacheslav Aviutsky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste de l'Europe de l'Est et professeur à l'ESCA, qui est une école de management. Alors, d'abord, je le disais dans mon introduction, les Ukrainiennes, les Ukrainiens vont être invités à choisir leur président ou leur présidente le 31 mars prochain. En lice, on a 26 candidats. Parmi les principaux, en tout cas quand on regarde les sondages, Yulia Tymoshenko, Petro Poroshenko, Volodymyr Zelensky, Arsène Avakov, Yuri Boyko, et il y en a d'autres. Est-ce que, en première approximation, on peut dire que tous, ou presque, sont soit des oligarques, soit directement liés à des oligarques, Yulia Shukan, et que donc, finalement, la révolution de 2014 que j'ai évoquée n'a pas tellement changé la donne s'agissant des rapports entre politique et milieu des affaires?
Il y a 44 candidats officiellement enregistrés effectivement pour cette campagne, alors qu'il y en a eu au total il y a eu 80 candidatures déposées auprès de cette instance. Et si on regarde effectivement les profils et donc les trajectoires des candidats, il y a effectivement une certaine continuité de cette pratique de confusion entre monde politique et monde des affaires. On a des hommes d'affaires qui sont entrés en politique et qui continuent à utiliser leurs ressources, mais aussi à exploiter les ressources d'État pour continuer cette pratique d'enrichissement. Et donc, vous avez cité Petro Poroshenko, le président actuel, effectivement, Yulia Tymoshenko. On reviendra sur son parcours. Mais vous avez quand même un certain nombre de candidats qui cherchent à marquer la rupture, qui se revendiquent de l'héritage du Maïdan et de cette revendication de lutte anticorruption.
Vous pensez à qui?
Je pense notamment à Anatoly Gritsenko, de la de la position civique, son parti politique, ou encore, je pense à un certain nombre, un journaliste qui s'est porté candidat, Dmytro Gnap, un journaliste d'investigation, qui a eu du mal à recueillir les fonds nécessaires pour se porter candidat, mais qui quand même a réussi à franchir aussi cette barrière institutionnelle. Donc il y en a.
Et qui a d'ailleurs fait un appel aux dons pour y parvenir justement.
Tout à fait.
Ils ont fait. C'est pas été directement financé par un oligarque.
C'est la seule campagne de collecte de cet acompte électoral qui s'élève à hauteur de 80 000 euros. Donc pour faire preuve du sérieux, il faut déposer de l'argent auprès de la Commission centrale électorale et le parti sur lequel s'appuie a fait une collecte de dons, en effet.
Vyacheslav Avyutsky, alors on va dans cette émission évoquer un certain nombre de figures, mais c'est vrai qu'il y en a trois qui vont nous intéresser en particulier, Yulia Tymoshenko, Petro Poroshenko, l'actuel président, Tymoshenko étant ancienne première ministre, Volodymyr Zelensky qui est le troisième homme, mais qui visiblement dans les sondages, on en parlait juste avant de commencer cette émission, est en train de monter considérablement et peut-être devenir le premier homme, en tout cas dans les sondages, et lui n'est pas directement un oligarque, même si on va voir qu'il y a des liens assez clair avec l'oligarchie quand même. Mais pour le moment, on se dirige quand même vers un duel entre deux oligarques, à la fois Poroshenko d'un côté, l'actuel président, et puis Tymoshenko de l'autre. Ils étaient crédités, quand moi j'ai regardé les sondages hier, c'était des sondages du mois de janvier, de la fin janvier, mais il y avait un peu plus de 15% pour le premier, puis 13-14% pour la seconde. C'est vrai que ça a bougé, mais en gros, voilà, ils sont pas nombreux, pas si nombreux que ça, à être au-dessus de la barre des 10%, ils en font partie. Est-ce que vous diriez, Vyacheslav Avyutsky, que ce sont des oligarques comme les autres, et que finalement, ce sont leur qualité politique, leur personnalité, leur programme, et puis évidemment leur puissance financière qui explique qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans ce duel au sommet, ou est-ce qu'ils sont des oligarques à part ?
Oui.
Pour être en position de devenir chef de l'État.
Mais en fait, je voulais revenir sur ce qui Yulia elle a dit. En fait, bon, c'est vrai, il y a une certaine continuité dans le système, parce qu'en fait, le système perdure malgré les ruptures, donc la première révolution, deuxième révolution, etc. Mais en même temps, en fait, il faut savoir que sur le plan structurel, l'Ukraine a changé. Parce que d'une part, par exemple, la Crimée n'est plus là, une grande partie du Donbass est actuellement occupée. Moi, j'aurais dit, pour comprendre en fait, le rapport de force qui évolue aujourd'hui, le rôle des oligarques, grosso modo, en fait, il faut prendre en compte le fait que les oligarques sont affaiblis. Donc, il y a certains qui ont perdu leur, entre guillemets, empire, groupe, banque, qui ont été mis en faillite ou qui sont retrouvés dans les territoires qu'ils contrôlent plus, etc., etc. Donc, ils ont beaucoup moins de finances. Ça, c'est la première chose. Donc, même pour Rocher.
Je veux dire, ils sont moins riches. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, ils sont moins riches, mais ils restent quand même les plus riches, quand même, parmi ceux qui sont aujourd'hui en Ukraine. Poroshenko, il a subi aussi, donc, en fait, des pressions assez importantes, etc., etc. Ça, c'est un point que je voulais évoquer. Deuxième point, en fait, moi, ce que je constate actuellement en Ukraine, avant, on avait, on va dire, des groupes, en fait, deux, trois groupes qui se réunissaient derrière certains hommes politiques qui mettaient de l'argent, des ressources et qui appuyaient ces candidats. Donc là, on est dans une fragmentation aujourd'hui, une fragmentation. En fait, on ne voit pas un front uni. En fait, les choses sont beaucoup moins certaines. Beaucoup moins d'argent aujourd'hui en Ukraine, quand même. Il faut le savoir, après les crises et en fait, la rupture des choses, en fait, la rupture du cycle, etc., etc. Donc, en parlant, par exemple, de Poroshenko, ça, c'est vrai. Donc, lui, il est oligarque, mais en même temps, c'est un homme politique. Il a passé par toutes les étapes, il s'est trouvé de tous les côtés politiques. Pour cette raison qu'il était élu en 2014, parce qu'il était à la fois accepté à l'est et à l'ouest, au sud et au centre. Voilà, donc c'était un homme de compromis. Voilà, c'est un oligarque. Mais je dirais quand même, malgré toutes les critiques qui sont contrôlées, c'est aussi un homme qui est patriote, qui s'est prononcé, qui a agi, etc., etc. Et voilà, donc après Yulia Tymoshenko, bon, c'est une ancienne oligarque. C'est vrai qu'elle a fait une grande fortune dans la décennie 1990. Puis elle était dans la politique. Bon, je dirais pas que c'est une femme pauvre, parce qu'elle a toujours des actifs assez importants, elle a des liens aussi avec des groupes financiers et industriels, ça c'est vrai, mais je veux dire, son comportement, bon, il est un peu, il a évolué aussi. Après Zelensky, en fait, c'est le troisième troisième homme, en fait, on a beaucoup de spéculations qui est derrière lui, qui finance sa campagne. Par exemple, la presse véhicule beaucoup l'information comme quoi c'est le groupe privat qui est derrière, avec Igor Kolomoïski, voilà, qui était un peu très proche du pouvoir de Porochenko. Puis il avait une sorte de brouille entre eux, et après il s'est retrouvé de l'autre côté. Donc on est ici dans ce contexte-là. Voilà, mais je vois quand même un changement structurel. En fait, l'Ukraine devient un pays
malgré les apparences. Ouais. Finalement, le pouvoir des oligarques est peut-être pas aussi fort qu'il l'a été. Yulia Shukhan, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Et puis ensuite, on va revenir justement sur le parcours un peu de Porochenko. Faut comprendre plusieurs choses. D'abord, comment est-ce qu'il a amassé une telle fortune et comment est-ce qu'il a pénétré ensuite le paysage politique ukrainien? Mais je vous en prie.
Mais je pense que c'est important de revenir sur les deux, en effet, parce que je serais très d'accord avec mon collègue dans le sens où il s'agit à la fois d'un homme et d'une femme politique professionnelle. Les deux sont entrés en politique à la fin des années 90, ayant déjà derrière un bagage économique dans le milieu des affaires, et ils se sont professionnalisés au sens où Yulia Tymoshenko est les députés depuis de longues années à la Rada suprême, donc au Parlement ukrainien. Petro Porochenko a été également député, donc elle a ce bagage politique. Ils ont lancé des partis politiques, donc ils sont aussi des chefs de partis. Et donc, il y a ce mélange, cette confusion qui reste encore, où on peut rester effectivement homme d'affaires, comme dans le cas de Porochenko, mais aussi un politique professionnel. Et ma deuxième remarque serait concernant les oligarques. Donc effectivement, leur poids en politique ukrainienne a diminué, mais c'est aussi cette idée que tous les hommes d'affaires ne cherchaient pas à être en politique. Ils cherchaient à influencer la politique, à avoir des rôles en politique. Des rôles institutionnels, effectivement, pour avoir accès à un certain nombre de richesses nationales. Mais ils ne cherchaient pas directement à être en politique.
C'est le cas de
ces deux-là. Hein, alors que les autres essaient plutôt de financer la politique et, par le biais de ce financement, de peser ensuite sur les décisions politiques.
Alors, comment s'est fait l'entrée de Porochenko en politique? Après avoir amassé énormément d'argent, c'est vrai que... D'ailleurs, c'est un peu avant les années 90 qu'il se met à gagner beaucoup d'argent. C'est dès les années 80, en réalité. Avant la chute de l'URSS.
En tant qu'homme d'affaires, oui, mais je pense que, enfin, il faut de toute façon, pour comprendre cette entrée en politique des hommes d'affaires, il faut revenir aux années Léonid Kouchma. Ce président ukrainien, donc entre 94 et 2004, qui a mené les politiques de privatisation à l'époque et qui a instrumentalisé ces politiques afin de favoriser sa propre stratégie de pouvoir pour rester au pouvoir, puisque ces distributions étaient faites de manière assez biaisée. C'était une sorte d'échange de services entre le président Kouchma et un certain nombre d'hommes d'affaires sur lesquels il s'est appuyé. Le biais, c'était bien sûr ces distributions très injustes et qui avaient été vécues et toujours perçues par les Ukrainiens comme extrêmement injustes. Mais dans le même temps, cette distribution particulariste, elle a favorisé effectivement la constitution de puissantes fortunes personnelles, de milieux d'affaires, mais des milieux d'affaires qui sont rangés à la fois du côté du pouvoir, mais aussi du côté de l'opposition. Et le cas de Petro Porochenko est exemplaire dans ce sens-là. Il a participé notamment à la création de ce parti Solidarité, même participé à des projets de création d'un autre parti au début des années 2000, le Parti des Régions, pour ensuite se mettre dans l'opposition au pouvoir en place et pour financer un parti de la Révolution Orange aussi et la candidature de Viktor Yushchenko en 2004.
Je rappelle quand même que le Parti des Régions, c'était à l'époque un parti pro-russe, un parti régionaliste qui avait été créé à la fin des années 90, donc un parti au fond aux idées assez éloignées de celles que sont aujourd'hui celles qui sont défendues aujourd'hui par Porochenko.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Vyacheslav Avyutsky.
Oui, en fait, moi je suis tout à fait d'accord avec Yulia, en fait, ce qu'elle dit, mais je crois qu'il faut rajouter ici ces dimensions régionales de l'Ukraine, parce que historiquement, on a des régions qui sont constituées, on a des économies régionales qui fonctionnent, c'est sur la base de ces économies régionales que ces clans d'affaires ont émergé. Par exemple, le clan, l'un des plus puissants, il faut qu'on en parle parce qu'en fait, il y a deux candidats de trois qui viennent de Dniepropetrovsk, c'est ce qu'on appelle le clan de Dniepropetrovsk, extrêmement ancien clan qui dirigeait à l'époque l'Union soviétique à travers Brejnev. On a parlé du fameux clan de Dniepropetrovsk des années 70-80 encore. Après Kouchma, il vient aussi de Dniepropetrovsk. Voilà, après, donc Yulia Tymoshenko vient de Dniepropetrovsk, Zelensky vient de Dniepropetrovsk. Enfin, tous viennent de Dniepropetrovsk.
Après, vous voulez dire que leur puissance économique et politique est extrêmement territorialisée. Il ne faut pas oublier cette chose-là.
Régionalisée. Voilà, régions. On a par exemple Dniepropetrovsk avec un pool. Après, il y a Kharkiv, donc une autre région. Après, on a Donbass aussi. Donc après, une autre chose aussi, moi je voulais revenir tout petit peu sur Porochenko. Donc c'est pas un oligarque comme les autres. C'est vrai, il a participé à des privatisations. Moi je crois qu'il a commencé dans la production de sucre, en fait, les usines comme ça, etc. Mais c'était pas non plus un actif extrêmement recherché à l'époque. En fait, les gens cherchaient surtout les aciéries, les mines, en fait, des choses comme ça, qui rapportaient beaucoup d'argent, qui étaient associées avec beaucoup de volume, avec beaucoup de poids. Une fois quand il est arrivé là-bas, il a réussi à construire son groupe d'une manière intelligente. Moi, je crois que c'est un homme d'affaires talentueux, voilà, qui a aussi développé sa marque commerciale. Il est connu comme le roi de chocolat en Ukraine et également en Russie. Parce qu'en fait, vous pouvez trouver du chocolat de cette marque, qui s'appelle Rochen, on peut partout dans le monde. C'est un chocolat de bonne qualité. Après, il y a d'autres produits qu'il a développés. Donc, il a une vraie vision stratégique, on va dire, en tant qu'homme d'affaires. En tant qu'homme politique, moi, je le trouve tout petit peu opportuniste, quand même. Parce qu'en fait, il était parmi les fondateurs du Parti des Régions, c'est-à-dire lié, on va dire, à un clan adverse à un certain moment, etc., etc. Puis il est parti vers l'opposition, puis il est revenu encore au Parti des Régions. En fait, il a fait ça en zigzag. Et bon, OK, le Parti de Solidarité, etc., etc. En fait, le fameux bloc Porochenko, il est quand même assez récent, on va dire. En fait, toutes les formations politiques qu'il avait créées avant, c'était ad hoc pour certaines élections, etc.
Mais d'ailleurs, même je vous laisse poursuivre, Yulia Choukane, mais ce virage nationaliste que vous évoquez, Vyacheslav Yavutsky, il s'est même accentué quand on compare aujourd'hui et la précédente campagne de 2014. Les choses se sont encore accentuées en 5 ans, Yulia Choukane.
Oui, mais c'est lié au conflit armé dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Bien évidemment, cet appel au patriotisme, à une mobilisation patriotique, effectivement, des Ukrainiens. Je voulais juste revenir sur cette idée de zigzag chez les hommes d'affaires entrés en politique. C'est tout à fait naturel. Pour les hommes d'affaires, je dirais, pour le profil des hommes d'affaires et pour l'éthos d'un homme d'affaires. Un homme d'affaires cherche à diversifier ses risques. Et un homme d'affaires cherche aussi souvent à investir, mais de façon économique et pas idéologique. Donc un homme d'affaires investit dans des positions de pouvoir dont il pense pouvoir retirer des bénéfices. Donc ce changement d'affiliation politique par les hommes d'affaires est très fréquent en Ukraine. Et ça a posé d'ailleurs des problèmes institutionnels du point de vue du fonctionnement du Parlement, où les hommes d'affaires pouvaient s'affilier sur une liste électorale et ensuite changer d'affiliation et soutenir le parti de la majorité, effectivement, puisque c'est dans la majorité, c'est à la majorité que sont associées les ressources, l'accès aux ressources, donc à des positions de pouvoir.
Et est-ce qu'aujourd'hui, le projet extrêmement nationaliste porté par Porochenko peut lui permettre de l'emporter, selon vous ? Les choses sont très serrées, on l'a dit, sondages sont très serrés.
C'est extrêmement difficile, effectivement, de faire des prévisions. En tout cas, il ne peut pas capitaliser sur les questions socio-économiques, puisque la situation, malgré un certain redressement des facteurs macroéconomiques, la situation individuelle au niveau du quotidien des Ukrainiens est très difficile. Donc, il mise, effectivement, sur un certain nombre de thématiques patriotiques. Il mise sur l'armée, et donc un certain nombre, effectivement, de réformes menées dans les forces armées. C'est incomparable, l'état des forces armées. Mais en 2014 et aujourd'hui.
La question religieuse aussi, l'autocéphalie de l'église orthodoxe ukrainienne, c'est lié à ça aussi.
Tout à fait, et sur les questions linguistiques aussi, sur la langue ukrainienne, et l'appropriation de l'ukrainien.
Alors, Yulia Tymoshenko, classée une fois encore dans les sondages que moi j'ai regardés hier, elle était deuxième, visiblement, elle aurait perdu cette deuxième place, mais en tout cas, pour donner quelques éléments biographiques, elle est née dans l'est de l'Ukraine, russophone, donc dans les années 60, elle a commencé par ouvrir un vidéoclub avant de faire fortune dans l'industrie du gaz au moment de la chute de l'URSS. D'où son surnom d'ailleurs, parce qu'elle aussi en a la princesse du gaz. L'ancienne égérie de la Révolution Orange de 2004 a été femme d'affaires, milliardaire, ministre de l'énergie, première ministre aussi, bien sûr, révolutionnaire, prisonnière politique. Elle a passé plus de deux ans et demi en prison. Et puis elle revient en 2014, écoutez-la en larmes, assise dans son fauteuil roulant, prenant la parole sur la place Maïdan en 2014.
Les gens qui ont été sur la place du Maïdan, les gens qui ont péri sur la place du Maïdan, ce sont des héros pour l'éternité. Ce sont nos libérateurs. Quand je suis arrivée à Kiev, la première chose que je voulais faire, je voulais me rendre sur les barricades dans la rue de Grouchevski et toucher ces pierres, toucher ces sacs. pour ressentir comment nos jeunes gens, nos jeunes filles, qui étaient dans les premiers rangs sur la rue de Grouchevski, ils étaient prêts à donner leur vie, sacrifier leur vie à la cause de la liberté de l'Ukraine. Ce sera donc notre source d'inspiration à jamais.
Ça, c'était donc il y a 5 ans, en février 2014, Vyacheslav Yavutsky. Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut faire son grand retour? Honnêtement, il y a quelques mois, ça semblait assez inimaginable. Et aujourd'hui, on la voit en position de devenir présidente.
Mais en fait, je crois qu'elle n'est jamais partie. En fait, elle était toujours dans la politique. C'est, on va dire, c'est la femme politique qui est, on va dire, toujours dans le top 5, qui a un très grand charisme dans la vie politique. Donc, elle attire, elle structure, elle organise autour d'elle des gens. Donc, je voulais juste rajouter qu'elle est quand même passée 2 séjours en prison. En fait, il y avait un autre séjour avant sous Kouchma.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est sa qualité de politicienne qui fait qu'aujourd'hui elle est en capacité de faire son retour et moins sa capacité financière.
Moins que sa capacité financière, bien entendu, qu'elle a toujours derrière elle en fait des oligarques. En fait, on a toujours suspecté Yulia Tymoshenko en cachet d'être soutenue par ce groupe privat avec lequel elle a entretenu des relations.
Qu'est-ce que c'est ce groupe?
C'est un groupe très opaque. C'est un groupe très opaque qui est dirigé par qui est propriété de deux personnalités, on va dire, qui étaient aussi assez opaques, Igor Kolomoïski, donc ils sont son copropriétaire qui apparaît presque jamais dans les médias. Donc c'est un groupe qui est basé à Dnipropetrovsk, d'accord. Donc au centre du groupe, c'était la première banque qui s'appelait Privat Bank. On appelle cette banque la banque systémique, c'est-à-dire que la banque qui ne peut pas avoir la faillite. Et donc cette banque a été affaiblie après 1914. Elle s'est retrouvée en faillite, était nationalisée par l'État. D'accord. Donc en fait, il a perdu ça, mais il a toujours des aciéries, d'autres actifs, etc. Donc le rôle de Kolomoïski était très important. Il est passé par être nommé gouverneur de Provence à l'époque de cette crise de 2014. Il a fourni lui-même des moyens financiers et même des voitures blindées pour arrêter en fait l'avancée des indépendantistes, des séparatistes du Donbass à l'époque. Il a joué un rôle très très important. Donc je crois qu'il a eu une sorte de alliance très très importante entre lui et Poroshenko à l'époque, conjoncturelle. Voilà, donc la grande question que je me pose aujourd'hui, donc apparemment il a eu une sorte de divorce entre les deux pour des raisons qu'on connaît pas exactement, qu'on peut pas élucider, et je me pose la question de quel côté il se trouve aujourd'hui. Est-ce que c'est derrière Yulia Tymoshenko ou Zelensky comme certains rumeurs l'affirment?
On va parler de Zelensky, mais vous parlez de divorce justement, Yulia Shukhan. J'ai vu que vous vouliez réagir, j'ai voulu laisser réagir librement, mais il y a eu un autre divorce qui est important, qui est entre les deux personnages dont on vient de parler, c'est-à-dire Poroshenko et Tymoshenko. Il fut un temps où ils faisaient partie du même camp. Bien sûr, les auditeurs peut-être l'ont oublié. Il faut aussi rappeler peut-être à quand remonte cette rupture et sur quoi elle s'est faite en réalité.
C'est une coalition qui s'est bâtie à la fin du mandat du président Kouchma, autour de l'année 2004, effectivement, entre Yulia Tymoshenko et le candidat de l'opposition de l'époque, Viktor Yushchenko. Elle l'a rallié au second tour. Donc ce sont les deux visages, en fait, Viktor Yushchenko et Yulia Tymoshenko de la Révolution Orange. Et à la suite de cette révolution qui s'est soldée par la victoire, le troisième tour d'élection a été organisé, Viktor Yushchenko a été porté au pouvoir, et c'est à ce moment-là que Yulia Tymoshenko avait été nommée Premier ministre. Et cette équipe, ce qu'on a appelé l'équipe Orange, effectivement, qui a renvoyé aux deux personnages, a éclaté six mois plus tard, autour de ces questions de gestion de l'héritage de Kouchma et de la dissociation des milieux d'affaires et du politique, autour de la question des reprivatisations, en fait. L'idée, c'était de revenir sur les résultats des privatisations réalisées avant et de faire de réorganiser une privatisation juste, une distribution beaucoup plus juste.
Ça, c'était l'idée de Tymoshenko?
Ça, c'était l'idée des deux, en fait. L'idée de
Mais les modalités de la...
les modalités de réalisation étaient effectivement différentes.
En quoi?
Yulia Tymoshenko voulait une renationalisation large et une reprivatisation extrêmement large. Donc une redistribution très importante des ressources.
Donc plus ambitieuse dans la redistribution des richesses.
Tout à fait. Alors que c'est à l'époque, il était aussi dans le jeu, Petro Poroshenko, mais c'est Viktor Yushchenko, donc président à l'époque, ils pensaient que ça allait porter un coup irrémédiable à l'économie et à la réputation internationale même de l'Ukraine, ce non-respect du droit de propriété, retour sur le droit de propriété. Et donc, il s'est opposé à cette modalité, même si derrière, voilà, il y a eu aussi une question au profit de qui ces reprivatisations allaient se réaliser. Donc, il y avait un différend là-dessus également. Et je voulais juste revenir sur cette idée de retour de Yulia Tymoshenko, parce qu'effectivement, par rapport à la séquence que... vous nous avez fait écouter, il y a un retour dans le sens où elle était la grande absente du Maïdan, alors qu'elle était le visage, l'égérie en fait, le terme qu'on a employé de la Révolution Orange.
Elle était l'égérie de la Révolution de 2004.
Voilà, c'est ça. La Révolution Orange de 2004, elle est l'absente de Maïdan. Mais parce qu'elle est empêchée, elle est emprisonnée effectivement et qu'elle ne peut pas participer.
Son ombre plane sur Maïdan.
Même pas. Je dirais que elle était. J'étais au moment de ce discours et à un moment dans votre enregistrement, on entend le chahut. En fait, elle est mal accueillie. Elle représente plutôt l'ancien régime dont on voulait se débarrasser à l'époque. Et en 2014, elle s'est portée aussi candidate à l'élection présidentielle, sauf qu'elle avait des positions marginales. Et aux élections parlementaires, son parti a recueilli moins de 10%. Elle a réussi à rentrer au Parlement, mais quand même avec un score relativement faible. Et elle a ensuite bâti cette stratégie de retour en tant que députée, d'abord au sein de la coalition majoritaire, donc qui réunissait plusieurs partis, y compris le bloc de Petro Poroshenko. Mais ensuite, elle s'est opposée, elle s'est placée dans l'opposition. Et en gros, elle voulait incarner cette opposition critique vis-à-vis de Poroshenko, pas sur les positions... de construction nationale, donc les positions patriotiques ou la conduite de la guerre, mais beaucoup plus sur les conditions, sur les questions socio-économiques, parce que Yulia Tymoshenko continue à promettre, voilà, les prix bas sur l'électricité, alors qu'on sait que, et sur l'énergie, alors que on sait que les prix avaient été augmentés. Elle continue à promettre un certain nombre d'augmentations de salaires et de retraites, et donc une plus juste, d'après elle aussi, redistribution des revenus.
Vyacheslav Alutsky.
En fait, je voulais aussi rebondir parce que, en fait, on oublie ici un quatrième homme, en fait, l'oligarque qui s'appelle Dmytro Firtash, qui est actuellement en résidence surveillée, toujours à Vienne, en attendant son extradition quasi improbable maintenant vers les États-Unis, accusé d'une affaire de corruption en Inde, etc., etc. Donc ça, c'est un homme politique très important. Et lui, il est très, très lié à ce qui s'est passé. En fait, comment le divorce s'est passé entre Poroshenko et Tymoshenko à l'époque, en 2005. En fait, grosso modo, lorsque Yushchenko, il prend le pouvoir, en fait, il va être assez quand même flexible avec des oligarques. Et donc, il essaie de préserver, en fait, le système de distribution de gaz qui était très très opaque et dirigé par ce milliardaire Dmytro Firtash, qui était lié à la fois au milieu russe et à la fois au milieu ukrainien, etc. Et donc Poroshenko, elle, s'insurge contre cela. Et dans cette large privatisation, elle voulait éliminer ce fameux Dmytro Firtash qui revient sur la scène politique en 2014. Là, on est comme dans un roman policier, en fait. Voilà, parce que, en fait, c'était... donc, lui, il se rapproche après de l'autre camp, bien entendu. Et donc, en 2014, lorsque Poroshenko, il a besoin d'argent, besoin de financement, en fait, donc, Dmytro Firtash, il part à Vienne, où se trouvent, en fait, les QG de sont enregistrés ses entreprises, généralement, etc., etc. Et il est bloqué là-bas par ce mandat d'arrêt international. Donc depuis là, il est toujours à Vienne, d'accord. Et donc, à l'époque, Poroshenko et Klitschko, un autre candidat qui s'est présenté, ils vont aller là-bas pour le rencontrer. Donc de quoi ils ont parlé, on ne sait jamais. Voilà. Donc, mais après, on sait que, en fait, je veux dire, la redistribution de pouvoir a fait qu'il a été très, très, très bien élu à l'époque.
Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. On est dans un roman policier ou dans une série télé. Parce que il y a une candidature qu'on n'a pas encore évoquée, qui semble en tout cas venir de l'extérieur du Sérail, c'est celle de Volodymyr Zelensky. C'est un acteur, voilà pourquoi je parlais de série télé, c'est un acteur ukrainien très célèbre, connu pour avoir joué notamment dans une série qui a eu beaucoup de succès en Ukraine, qu'on peut traduire par « Serviteur du peuple », histoire d'un enseignant qui finit par devenir président. J'imagine que vous l'avez vu l'un et l'autre.
Oui.
Allez,
oui,
petit extrait, on n'a pas trouvé la version française, extrait donc en ukrainien.
Но я знаю одно. Поступать нужно так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. Ну и родителям. Ну, и всем вам, конечно же. Ось це, українці, я вам обіцяю.
Спасибо.
Voilà, donc je pense que si on a bien compris, c'est la séquence donc de cette série Yulia Choukhan où l'acteur principal, donc Volodymyr Zelensky, annonce qu'il va se porter candidat à la présidence. Il se trouve qu'il va devenir président. Alors il y a la série télé Yulia Choukhan, mais il y a aussi le parti Serviteur du Peuple, puisque Zelensky a créé son propre parti éponyme, donc du même nom. Il était il y a encore quelques jours troisième dans les sondages, mais visiblement il monte, et surtout il incarne évidemment cette attente de la société qui voudrait bien rompre avec ce système oligarchique. Certains observateurs, Yulia Choukhan, considèrent qu'il pourrait créer la surprise. Vous y croyez ?
C'est très difficile de prévoir, effectivement. Et l'Ukraine se retrouve pour la première fois en situation d'imprévisibilité aussi importante. En sachant que l'imprévisibilité, c'est la caractéristique d'une élection démocratique, bien sûr. On ne connaît pas l'issue, mais là, on ne connaît même pas l'issue du premier tour, en fait. On a du mal à prévoir à voir qui sera gagnant et qui rentrera au second tour de l'élection présidentielle. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dynamique, effectivement. Et cette dynamique est certainement liée à une grande déception ressentie par les Ukrainiens. Déception vis-à-vis de la politique institutionnelle et de ses acteurs. Donc déception vis-à-vis des autres candidats à cette élection présidentielle. Et je dirais que cette cote de popularité de Zelensky, qui continue de croître effectivement en termes d'intention de vote, c'est aussi l'indice de la défiance des Ukrainiens vis-à-vis de la politique institutionnelle. Mais la grande difficulté ici, c'est qu'on voit que Zelensky, on a introduit ses dimensions régionales, il est soutenu un peu partout en Ukraine. Donc il ne s'appuie pas sur une région particulière. C'est un acteur de stand-up extrêmement connu en Ukraine aussi. Donc même avant de le connaître en tant que candidat, les Ukrainiens le connaissaient que comme comédien. Mais c'est un électorat protestataire et surtout un électorat extrêmement jeune. Donc toute la question qui se pose pour Zelensky et sa campagne, ses chefs de campagne, c'est de mobiliser cet électorat le jour J, le 31 mars, de les amener vers les urnes. Parce qu'on ne sait pas combien de ces personnes qui se déclarent favorables à Zelensky, à cette candidature, vont quand même se déplacer pour le soutenir.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'il incarne quand même cette forme de dérégionalisation de la politique ukrainienne, d'une certaine manière. Vyacheslav Yavutsky, je disais tout à l'heure qu'il venait de l'extérieur du sérail. En réalité, pas tout à fait, parce que il est aussi proche d'un oligarque ukrainien qui s'appelle Igor Komolovsky, qui est propriétaire de la chaîne de télé qui justement a diffusé la fameuse série dont je parlais, qui est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine, deuxième ou troisième fortune du pays, je crois. Donc ça veut dire qu'il a aussi, lui, des soutiens de taille, et notamment des soutiens financiers. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que Zelensky serait finalement utilisé, instrumentalisé, voire piloté par justement ce fameux Komolovsky?
Komolovsky. Mais en fait, moi, je crois que donc on est bon. Si je dis qu'il est populiste, peut-être que ça va être un peu une vision extrême de la chose. Voilà. Mais quand je vois un peu la structuration de ce personnage, ça me rappelle, bon, on va dire, Donald Trump qui s'est posé d'abord à travers une présence médiatique et qui s'est positionné comme un anti-système, etc. Bon, le contenu est différent. Quand on regarde le personnage, le contenu est différent. Il est plus, il est plus consensuel par rapport au reste, mais c'est aussi un candidat anti-système. Donc, il est vrai qu'on a des rumeurs qui courent comme quoi, donc il serait proche des intérêts oligarchiques. Donc c'est possible, voilà. Donc normalement les oligarques jouent souvent sur plusieurs tableaux en même temps aussi. Voilà. Après, je voulais revenir aussi sur cette imprévisibilité. C'est possible qu'il va venir au premier tour, mais au second tour, moi, j'y crois pas, parce que en fait, il est trop nouveau pour la politique. Et il y a beaucoup de signaux d'instabilité institutionnelle. Donc l'électorat.
La nouveauté, c'est une attente de la société ukrainienne, en tout cas d'une partie.
Mais je crois qu'on est arrivé déjà à un point, je veux dire, du pire. C'est-à-dire, on peut pas aller encore plus bas. Donc, normalement, n'importe quel candidat qui arrive, normalement, en fait, il ne peut faire que du mieux. En fait, c'est ce que je veux dire. En fait, même s'il faut on accuse souvent les candidats de mentir, de donner des promesses irréalisables. Je crois que toutes les promesses sont réalisables parce qu'on est vraiment au fond de l'abîme. Le pays il est, on va dire, occupé par une puissance étrangère. On va pas dire son nom exact pour voilà. Mais on le sait d'une manière insidieux.
Oui, la Russie, en l'occurrence. Hein.
Voilà, si vous voulez. Non, je ne voulais pas offenser peut-être les auditeurs qui aiment bien bien la Russie, etc., etc. Donc ça, c'est bon. Après,
on n'empêche pas l'autre. On peut aimer la Russie et avoir un regard un peu plus critique sur les politiques réalisées par les autorités russes. Donc,
on a un regard critique, bien entendu, etc. Donc, aujourd'hui, il faut quand même savoir que cette quand même intervention russe, en fait, a complètement modifié aussi le rapport de force à l'intérieur. Avant, on avait grosso modo la moitié de l'électorat qui était pro-russe, l'autre moitié qui était, on va dire, pro-européen, pro-occidental, etc. Là, maintenant, on a changé. En fait, l'électorat qui est stable, qui est pro-russe, est devenu largement minoritaire aujourd'hui, sans Crimée, sans Donbass. Donc, on est aussi au milieu, en fait, de ce projet, on va dire, ukrainien, pro-européen, pro-occidental, etc., etc.
Oui, parce que, je précise, les citoyens du Donbass ne voteront pas pour la présidentielle.
Ils peuvent voter. Ils peuvent voter s'ils traversent la ligne de démarcation.
Voilà, c'est ça.
Non. Oui. Traverser.
Il n'y aura pas de bureau de vote.
Être au préalable, être enregistré en tant que personne déplacée interne, mais sinon, effectivement, il n'y aura pas
de bureau de vote dans le Donbass.
Dans les territoires
dits
occupés, donc dans les territoires des républiques autoproclamées.
Yulia Choukan, sur le doute émis par Vyacheslav Avyutsky de capitaliser et d'être en capacité sur un second tour de l'emporter. C'est une vraie question qui se pose. On peut faire plein d'hypothèses. Mm-hmm. L'hypothèse où il se retrouve face à Timoshenko, l'hypothèse où il se retrouve face à Poroshenko. Est-ce qu'il serait en capacité, Zelensky, de l'emporter face à ces candidats-là? Est-ce que les reports de voix peuvent le permettre, peuvent le laisser penser?
Je pense que par rapport à... Si on compare le couple de candidatures Zelensky-Poroshenko, le problème de Petro Poroshenko, c'est que certes, à la fois, il a réussi quand même à rattraper son retard. Encore cet été, il était très très bas dans les sondages. Là, on le voit plutôt en deuxième position. Mais le problème de Petro Poroshenko et de Yulia Tymoshenko, c'est qu'ils cumulent à eux deux, chacun en fait, de son côté, ce qu'on appelle la cote de popularité négative. Parce que dans les sondages ukrainiens, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les intentions de vote. Mais il y a aussi cette question qui est posée aux Ukrainiens: pour qui vous ne voterez jamais, quelle que soit la configuration. Mmh. Et ce qu'on voit, c'est que Poroshenko a la première position sur sur ce critère, sur cette cote de popularité négative. Et ensuite, il y a Yulia Tymoshenko. Et Zelensky, il est extrêmement bas, en fait. Donc, les gens envisagent, en tout cas, pour le moment, dans les projections, bien évidemment, de soutenir cette candidature. Mon interrogation porte beaucoup plus sur, effectivement, la mobilisation électorale. Est-ce qu'il parviendra à mobiliser tous ceux qui, aujourd'hui, se déclarent en faveur de cette candidature? Est-ce qu'il parviendra à maintenir un certain flou aussi sur son programme? Parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, en appelle au peuple, le serviteur du peuple. C'est le nom de son parti, Krix Nilo aussi. Enfin, il n'y a pas de structure, donc il essaie de créer plus et de mener une campagne virtuelle à travers la mobilisation en ligne et le recrutement d'un certain nombre de membres pour ses campagnes dans les régions. Mais est-ce qu'il parviendra ou pas à mobiliser? C'est ma grande interrogation.
Est-ce qu'il est flou, Yulia Choukan, Zelensky? Particulier sur la question des rapports avec Moscou, parce que vous nous le disiez tout à l'heure, Vyacheslav Avyutsky, aujourd'hui on n'est plus dans une configuration pro-Europe, pro-Union Européenne versus pro-Moscou, mais quand même c'est une grille de lecture qui permet de comprendre un petit peu les choses. Où est-ce qu'il se positionne, lui, Zelensky, sur ce point-là?
Il nous a donné quelques indications, en effet, parce qu'il a commencé à donner des entretiens, en tout cas des grands médias ukrainiens en décembre, janvier, mais là il a limité aussi toute sa stratégie de communication parce que ce qu'elle fait ressortir, c'est son non-professionnalisme politique. Et j'ai l'impression que les chefs de campagne ont aussi peur que ça ne joue pas contre lui. Donc il limite un certain nombre, il limite les entretiens et nous a donné quand même quelques indications. Voilà, qu'il qualifie ce conflit de conflit ukraino-russe, et donc c'est la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Il se positionne sur la question de la paix, il veut chercher la paix, enfin amener la paix à tout prix, en faisant beaucoup de concessions. Il a réveillé aussi un pas mal de critiques à cet égard. Quel est le prix à payer pour cette paix? Est-ce qu'on va céder face à la Russie ou pas dans les négociations? Après, il dénonce le système, donc il se place comme un candidat anti-système, sans rentrer dans le détail, voilà, des mesures qu'il pourrait adopter.
Vyacheslav Avyutsky, la question que pose aussi Yulia Choukan, c'est celle du positionnement général des oligarques. Alors, je sais bien que Zelensky n'est pas directement un oligarque, mais on l'a dit, il a des liens assez clairs avec l'oligarchie ukrainienne. C'est celle du positionnement global de cette oligarchie ukrainienne vis-à-vis de Moscou. Est-ce qu'on peut dire en première intention qu'on est plutôt justement en faveur d'une prise de distance de Moscou, ou en réalité on est proche de Moscou, ou est-ce qu'en réalité on ne peut rien dire? Ça dépend des oligarques, ça dépend aussi de la circonstance, et ça peut évoluer au cours du temps. Enfin, comment s'y retrouver là-dedans?
Mais en fait, moi je crois que pour apporter des clés de réponse intéressantes à cette question, le rôle de l'oligarchie aujourd'hui en Ukraine. En fait, il faut dire que le modèle économique ukrainien est en train d'évoluer. Avant, c'était une économie rentière qui était surtout alimentée par le gaz. Le commerce du gaz, en fait, c'est la rente gazière qui était redistribuée de telle ou telle façon entre les divers groupes financiers. Donc ça veut dire que ces groupes oligarchiques financiers dépendaient de la Russie. Donc aujourd'hui, quelles sont, on va dire, les activités qui sont en train de porter? Bon, c'est toujours un peu les aciéries, en fait, l'acier, etc., qui demandent toujours beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie, mais...
Essentiellement à l'Est.
À l'Est, mmh. Mais il y a une grande rupture avec l'occupation et tout ça. Mais regardez aujourd'hui, c'est l'agriculture qui se porte bien. L'Ukraine, c'est une grande exportatrice des produits alimentaires, agri-food, etc. C'est aussi, on va dire, tout ce qui est lié à l'informatique. En fait, il y a des grands clusters qui sont en train d'émerger, en même temps en Russie, mais en même temps en Ukraine.
Donc avec des secteurs moins dépendants de Moscou, c'est ça que vous voulez entendre.
Beaucoup moins dépendants. Et même, par exemple, les aciéries sont en train d'évoluer aussi vers moins de consommation de gaz, d'électricité, etc., etc. Donc, en fait, moi, je suis optimiste. Moi, je pense que l'Ukraine est en train de s'européaniser, primo. Secondo, moi je vois plutôt Yulia Tymoshenko arriver, ça va être une alternance assez gérable, parce qu'imaginez-vous, ce Zelensky n'a pas de base, en fait c'est un rêve, bon ok c'est anti-système, mais un pays en guerre ne peut pas entrer dans une phase d'instabilité, il n'a pas de parti politique, il n'a pas de député, il n'a pas de base, je veux dire, réellement territoriale, à part ces jeunes qui votent contre lui, etc., etc. Moi je ne crois pas qu'il va gagner, bon peut-être on n'est pas d'accord là-dessus.
En quelques mots, on va parler de la Moldavie dans un très court instant.
Je pense que j'aurais beaucoup de mal à me projeter à faire des prévisions au-delà déjà de ce que les instituts de sondage nous donnent. On va voir, enfin, à cet égard. Mais en tout cas, chacun des candidats a des faiblesses aussi, du point de vue, voilà, de la mobilisation électorale.
On parlait de cette difficulté à se positionner entre la Russie et l'Union européenne. On va s'intéresser à un pays qui, lui, a aussi, évidemment, ce défi en face de lui. C'est la République de Moldavie, petit pays d'Europe orientale, coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. En 2015, le Parlement européen avait sorti un rapport qualifiant la Moldavie d'État capturé par les intérêts oligarchiques, dénonçant l'influence de ces derniers sur la société moldave.
Nous voulons des changements radicaux en Moldavie. Nous voulons un État de droit. Aujourd'hui, la Moldavie est accaparée par des oligarques criminels. On veut se débarrasser d'eux.
Tous ces gens méritent une vie meilleure. Nous sommes sortis pour nous battre pour notre avenir, pour une vie meilleure.
Nous voulons appartenir à l'Union européenne. Nous voulons que nos enfants grandissent ici. Nous voulons nous débarrasser de ces bandits, ces voleurs et être un pays civilisé.
Le peuple s'est réveillé et a fermement décidé de reconquérir son pays, de récupérer ses milliards et de traduire les coupables devant la justice.
Même le retour du milliard volé ne va pas satisfaire le peuple. Il faut changer le pouvoir actuel et il faut des élections anticipées.
Cette histoire du milliard volé, 1 milliard d'euros, même plus des caisses de l'État, c'est-à-dire 13% du PIB national, qui avait provoqué de profondes contestations sociales, de l'argent qu'il avait fallu, des caisses qu'il avait fallu renflouer avec l'argent du contribuable, une affaire qu'on avait qualifiée de casse du siècle. Bonjour Florent Parmentier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'IEP de Paris et cofondateur du blog Eurosia Prospective. D'abord un tout petit mot sur le casse du siècle. Est-ce que 4 ans après, on en sait un peu plus sur la disparition de cet argent public?
Alors, on ne l'a toujours pas retrouvé. Et ce qui est frappant de voir, c'est que malgré tout, ça a mené à certaines conséquences, dont l'arrestation de l'ancien Premier ministre, Vlad Filat. Vlad Filat qui a été Premier ministre après ce qu'on a appelé les événements d'avril 2009, c'est-à-dire l'alternance politique qui a eu lieu en Moldavie, où il y avait un parti des communistes qui était au pouvoir, un parti des communistes d'un style bien particulier, pour aller ensuite vers des alliances, une alliance pro-européenne. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois un pouvoir qui est pro-européen dans son nom, dans ses orientations, dans son discours, Et en même temps, on a eu ce cas du siècle qui, de ce point de vue-là, a décrédibilisé une partie de l'image européenne, puisque l'image européenne, ou en tout cas les porte-parole du mouvement européen, ou certains d'entre eux, en tout cas au niveau politique, se sont retrouvés dans une affaire pour laquelle les coupables n'ont toujours pas été retrouvés. C'est-à-dire que Vlad Filat a pu être incarcéré, mais il y a encore un certain nombre de questions autour des personnes qui ont pu mener le coup. Donc il y a vraiment encore un doute, en dépit des demandes très fortes de l'opinion publique.
En tout cas, du point de vue politique, c'est quelque chose qui a eu un effet sur le paysage politique, puisqu'en 2016, justement, suite à ce scandale, le PU avait élu à la tête de l'État Igor Dodon, qui sera d'ailleurs le chef de file des prochaines élections législatives à la fin du mois, parce que là aussi, il y a une actualité électorale très forte. Je voudrais comprendre ce qu'au fond, l'élection d'Igor Dodon nous dit sur l'évolution de la vie politique générale de la Moldavie, et peut-être en particulier sur cette question des liens entre monde politique et monde des affaires. Parce qu'on parle aujourd'hui de cette bataille des oligarques, il y en a aussi évidemment du côté de la Moldavie. Je pense en particulier à un homme qui s'appelle Vladimir Plahotniuc, qui est un homme d'affaires particulièrement influent, qui a été vice-président du Parlement. Il faut essayer de comprendre justement ses liens avec le pouvoir actuel et en particulier avec le président Igor Dodon.
Alors il y a effectivement une blague qu'on retrouve à Chișinău, donc la capitale de la Moldavie, qui est un peu de se dire finalement qu'on est passé d'un régime de parti unique à un régime d'oligarque unique, avec cette idée voilà qu'il y a, de ce point de vue-là, Vladimir Plahotniuc que vous avez mentionné, qui est l'une des personnalités marquantes du système politique, qui n'a pas de position ou de rôle visible, mais qui, en tout état de cause, est à même de vous avez employé tout à l'heure l'expression d'État capturé, qui est en même de faire la meilleure utilisation possible à ses fins des fragilités institutionnelles que présente la Moldavie.
C'était une expression qui avait été utilisée par un rapport du Parlement européen. Voilà, c'était pas le mot d'expression.
Exactement, voilà. Et qui est une littérature, en fait, notamment qu'on trouve au FMI ou dans d'autres organisations internationales. Donc, c'est un terme consacré, en fait, qui s'oppose à l'idée d'État de droit. C'est-à-dire, soit l'État est impartial, à ce moment-là, il s'appuie sur le droit, soit c'est un État capturé, c'est-à-dire en proie à des activités économiques et à des groupes d'intérêts économiques. Les relations entre Vladimir Plahotniuc et le président Dodon, de ce point de vue-là, sont un peu les suivantes. Monsieur Plahotniuc, qui est le principal financier soutien, inspirateur de l'Alliance pour l'intégration européenne, dans ce cadre-là, c'est-à-dire des partis de gouvernement qui sont actuellement au Parlement, majoritaires. L'opposition d'Igor Dodon se fait un peu sur le modèle du cartel politique. Ce sont différentes entreprises, en quelque sorte, mais ce sont des entreprises qui peuvent s'arranger pour coexister, mais dont finalement les logiques, les rationalités peuvent aller dans des sens différents. Ce qui intéresse le président Dodon aujourd'hui, c'est de gagner de l'influence au sein du système politique moldave. De l'autre côté, Vladimir Plahotniuc son pouvoir essaie plutôt de limiter tous les autres contre-pouvoirs intérieurs à son intérêt. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a à la fois aujourd'hui en Moldavie des pro-européens anti-oligarques et des pro-européens qui dépendent de fait du principal oligarque. Mmh.
Mais en tout cas, ce que j'entends, Florent Parmentier, dans votre analyse, c'est qu'aujourd'hui, le poids de ces oligarques dans le paysage politique moldave est extrêmement important, peut-être même plus important qu'il ne l'a été par le passé, contrairement justement à l'Ukraine, avec ce que nous disaient Vyacheslav Avyutsky et Yulia Shukan. Il se trouve qu'en juillet dernier, il y a eu l'élection d'un homme qui s'appelle Andrei Nastase à la mairie de la capitale, qui a été invalidé. Il se présentait, lui, comme un anti-oligarchique. D'ailleurs, sa campagne s'était beaucoup appuyé sur la dénonciation précisément de Plahotniuc et de son influence sur le paysage politique. Donc ça veut dire qu'on est quasiment dans l'impossibilité de faire reculer cette oligarchie. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à enclencher une forme de désoligarchisation, si vous me permettez le néologisme?
Alors plusieurs choses. Il faut voir que l'oligarchisation, en quelque sorte, c'est une volonté de monopolisation du pouvoir. Mmh. Faire en sorte que le pouvoir ne dépende pas du droit, mais de quelques personnes, voire d'une personne qui serait un peu au centre. Comment se passe cette monopolisation du pouvoir? Il y a quatre types de ressources, en quelque sorte. Il y a des partis politiques. On voit là que M. Plahotniuc est l'un des principaux financiers d'un parti, le Parti démocrate, qui lui-même fait partie de cette alliance pour l'intégration européenne. Donc il y a une première ressource qui est la ressource politique. Il y a une deuxième ressource qui est une ressource économique. Vladimir Plahotniuc est quelqu'un qui a fait fortune à la fois avec des fonds d'investissement avec les États-Unis, dans l'exportation de vin vers la Russie, mais fondamentalement il y a une capacité à capter des ressources qui est importante. Et un troisième levier, qui est l'utilisation de l'administration. Donc la capacité en fait de pouvoir utiliser le Parlement, les organisations anticorruption, un certain nombre d'organismes de l'État, afin d'assurer un monopole du pouvoir. Et puis il y a quatrième ressource qui sont les médias. Et là aussi, Vladimir Plahotniuc dispose d'un certain nombre de médias. À cela s'ajoute la capacité de Vladimir Plahotniuc à devenir une forme finalement de personne centrale et obligée, y compris auprès des partenaires internationaux. Il faut voir par exemple que en septembre 2017, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a invité Vladimir Plahotniuc, et donc l'avait reçu à Istanbul, à Ankara. Il y a également le fait que dans des visites officielles, on a vu le même Vladimir Plahotniuc invité en mai 2016 aux États-Unis, rencontré notamment Victoria Nuland, qui était une des représentantes, finalement, en tout cas une des responsables américaines de la politique européenne des États-Unis. Donc, il a non seulement ses ressources de monopolisation du pouvoir, mais aussi une forme de visibilité internationale. Donc, il y a là voilà quelque chose qui est tout à fait notable.
Oui, parce qu'il veut se placer, Plahotniuc, en tout cas il veut placer son pays comme une forme de pont entre la Russie et l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs précisément ce qu'avait dit Dodon dans une interview, je crois, au Monde, il y a quelques semaines. Réaction, Yulia Shukan, Vyacheslav Avyutsky, sur ce cas moldave, peut-être un jeu de miroir avec le cas ukrainien, justement, dont on parlait.
Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'aurais deux grandes remarques en écoutant Florent Parmentier. C'est que par rapport à l'Ukraine, effectivement, on voit une situation à miroir en quelque sorte. C'est que l'Ukraine reste un État capturé aussi, mais pas oligarque unique. On voit effectivement une certaine reconfiguration au niveau des oligarchies, donc des milieux d'affaires qui cherchent à appuyer les hommes politiques, mais c'est quand même une diversité aussi. Et il y a un certain pluralisme économique qui continue à générer le pluralisme politique. Il l'a fait, enfin, ce lien en pluralisme économique politique, on l'a constaté dès le début des années 2000 et il continue effectivement à fonctionner de la même manière. Et la deuxième remarque, c'est qu'on voit, on a entendu les Moldaves protester, en fait. Donc, on voit que ces revendications populaires de lutte anticorruption, de lutte contre la corruption dans les milieux politiques, on a du mal à la traduire, en fait, tant en Moldavie qu'en Ukraine. En Ukraine, l'Ukraine s'est dotée d'un certain nombre d'institutions anticorruption à la suite du Maïdan. Voilà, leur travail est souvent empêché par l'ancien système et par les représentants
notamment l'Agence nationale de prévention de la corruption, mais c'est vrai qu'elle ne fait pas vraiment, disons, beaucoup de zèle dans, on va dire comme ça, Vyacheslav Avyutsky dans cette lutte contre la corruption. Hein.
Oui, c'est vrai. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais on va dire, quelle est l'attitude actuelle du gouvernement ukrainien? Il ne faut pas déstabiliser trop la situation parce que c'est un pays en guerre. Voilà, donc il y a des choses, il ne faut pas aggraver déjà la situation qui est très très compliquée. Je voulais rebondir aussi sur cette histoire.
En quelques mots, on arrive au terme de l'émission, mais je vous en prie.
La comparaison entre la Moldavie, l'Ukraine et même peut-être la Russie. En fait, souvent en Ukraine, on a vu cette diversité, on va dire c'est la base de la démocratie lorsque des grands acteurs essaient de trouver un consensus sans monopoliser le pouvoir, ce qui est, on va dire, un grand avantage d'un pays comme l'Ukraine.
Abonat la surâsul tău și m-am deprins zilnic să-l citesc ca pe un ziar. Deși s-a atâtea fete-n Chișinău.
Merci beaucoup à nos invités. Florent Parmentier qui était à l'instant avec nous en direct par téléphone. Je rappellerai d'ailleurs vous concernant Les chemins de l'état de droit qui était paru aux presses de Sciences Po en 2014. Un grand merci également à nos deux invités, Vyacheslav Avyutsky et vous, Yulia Shukan, de nous avoir éclairé sur ce monde oligarchique en Ukraine. Génération Maïdan, vivre la crise ukrainienne, c'était aux éditions de l'Aube en 2016 vous concernant Yulia Shukan. On mettra évidemment les références de ses ouvrages sur la page de Culture Monde et on mettra également la référence de cette musique qu'on entend qui est très sympa. Hein, qui est un groupe moldave. Vous me disiez, Benjamin Hu, comment on peut traduire le titre de ce... Tout sourire, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait traduire le titre de cette musique. On la met évidemment aussi sur la page de Culture Monde. 11h53 minutes.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous parliez hier, Brice, du livre de Steven Pinker, Le Triomphe des Lumières, sous-titré Pourquoi il faut défendre la raison, la science et l'humanisme.
Oui, et dans son précédent ouvrage, qui s'appelait La part d'ange en nous, ce psychologue avait compilé des dizaines de statistiques, toutes destinées à combattre la morosité ambiante dans nos vieilles démocraties fatiguées. Non, la violence ne s'est pas aggravée au cours des dernières décennies, démontrait Pinker. Au contraire, le processus de civilisation l'a fait régresser de manière spectaculaire. Non, l'humanité ne s'est pas non plus appauvrie, au contraire, à aucune autre période de l'histoire humaine, autant de personnes ne sont sorties de la pauvreté qu'au cours des 20 dernières années. Même l'aggravation des inégalités est un mensonge. À l'échelle de l'humanité entière, il est aisé de déconstruire ce mythe. L'espérance de vie, qui ne dépassait 40 ans dans aucun pays du monde du fait de la mortalité infantile et de la dangerosité des accouchements en 1800, est actuellement de plus de 72 ans, moyenne mondiale. En 1950, elle n'était que de 60 ans dans les seuls pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord. Les famines, qui ont affligé l'humanité durant la totalité de son histoire, sont en voie de disparition, malgré l'extraordinaire progression de la population à nourrir sur la planète. Et c'est particulièrement frappant en Chine, où 1,3 milliard de personnes disposent désormais de 3100 calories par personne et par jour en moyenne. De même, le mythe des Indiens qui meurent de faim appartient aussi au passé, avec une moyenne de 2400 calories par personne et par jour. La moyenne pour le continent africain se situe légèrement au-dessus de ce chiffre, avec 2600 calories. Grâce à la révolution agricole, à une intelligente sélection des variétés à cultiver et aux OGM. Non, les ressources énergétiques en particulier ne sont pas non plus en voie d'épuisement, comme nous le serine le catastrophisme ambiant depuis des décennies. En réalité, les sociétés ont toujours abandonné une ressource au profit d'une autre, meilleure, bien avant que l'ancienne ne soit épuisée, écrit Steven Pinker. L'humanité s'est ainsi tournée vers le charbon avant d'avoir épuisé le bois des forêts, vers le pétrole avant d'avoir épuisé les mines de charbon. Elle est en train de découvrir de nouvelles alternatives au pétrole et le gaz reste, lui, abondant. Oui, n'en déplaise aux esprits chagrins, l'humanité se porte beaucoup mieux qu'il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, elle se portait déjà beaucoup mieux qu'il y a un demi-siècle. Non, le progrès n'est pas un mythe. Si l'on veut le démontrer, il faut avoir le courage d'aller plonger dans les données chiffrées, car ce sont les seuls qui ne sauraient mentir. Ce qui contraint notre psychologue à se faire économiste, démographe, historien.
Et Brice, selon Pinker, tous ces progrès ont une même origine intellectuelle, les Lumières. Elles ont combattu les superstitions, libéré la raison, donné le feu vert à la science, promu le bien-être et la liberté.
Oui, voilà ce qu'écrit Steven Pinker. La vie avant les Lumières était assombrie par la famine, les épidémies, les superstitions, la mortalité maternelle et infantile, les chevaliers en maraude et les seigneurs de guerre, les supplices sadiques, l'esclavage, la chasse aux sorcières ainsi que les croisades, conquêtes et guerres de religion génocidaires. Bon débarras. Pinker n'est pas seulement un adepte des Lumières, mais un fervent progressiste. Une espèce qui, fait-il remarquer lui-même, devient rare dans nos intelligentsias. Le pessimisme désabusé, la dénonciation condescendante sont des attitudes partagées. À gauche, parce qu'il faudrait se résigner à voir dans les progrès extraordinaires accomplis par l'humanité ces dernières décennies les effets bénéfiques de l'économie libérale et de la mondialisation, ce à quoi elle ne saurait se résigner. À droite, parce qu'on y est obsédé par l'idée que plus le bien-être se répand, plus la civilisation est en déclin. Voyez Nietzsche ou Heidegger et nos pessimistes culturels contemporains. Ils jugent en esthète l'amélioration spectaculaire du niveau de vie des masses. À leurs yeux, vulgarité et érosion des âmes sont les effets nécessaires de la consommation. En réalité, écrit Pinker, qu'ils soient de gauche ou de droite, les intellectuels détestent le progrès. Les intellectuels, écrit encore Steven Pinker, savent qu'ils peuvent installer instantanément une atmosphère solennelle en pointant du doigt un problème non résolu et en proclamant qu'il s'agit du symptôme d'une société tout entière malade. Il est facile de faire carrière sur la dénonciation de mots, même imaginaires, même dépassés. L'indignation séduit les lecteurs et les auditeurs bien davantage que l'exposition sereine des faits. Pinker résume ainsi son propre ouvrage. Et voici un scoop ébouriffant. Le monde a fait des progrès spectaculaires dans chaque domaine mesurable du bien-être humain, sans exception. Deuxième scoop éblouissant. Presque personne n'est au courant. Pinker, eh bien, il est là pour le faire savoir.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.